70 ans de règne, la reine d'Angleterre dans l'agenda et dans les petits bateaux, après ce journal.
France Inter.
Joe Biden vient donc d'arriver à Uvalde, 5 jours après la tuerie dans une école primaire. Le président américain et son épouse viennent pour apporter toute leur empathie aux proches des victimes de cette fusillade. 19 enfants, 2 enseignantes ont péri dans l'école Rob d'Uvalde sous les balles de Salvador Ramos, 18 ans à peine. En direct d'Uvalde au Texas, on retrouve notre envoyé spécial Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Frédéric.
Et le président Biden vient à l'instant de se recueillir devant l'école.
Oui, avec son épouse, habillés tous les deux en noir. Ils se sont recueillis pendant quasiment une demi-heure dans le rôle que Joe Biden à la fois déteste faire et sait faire parfaitement, celui de consolateur en chef. Il est à Sandy Hook, où il y a eu une tuerie aussi il y a 10 ans. Il était à Buffalo il y a 2 semaines pour consoler aussi leurs proches. Il est aujourd'hui à Uvalde pour la journée et il s'est effectivement recueilli devant cette école, devant les dizaines de bouquets de fleurs, de couronnes de fleurs qui entourent les portraits des 21 victimes, grandeur nature. Chacun des portraits a été touché par le président, par sa femme, qu'ils sont recueillis individuellement. Ensuite, ils ont déposé ce bouquet de fleurs blanches et puis ils ont été un petit peu chahutés, un petit peu interpellés en tout cas par certains des habitants de la ville qui se trouvaient derrière les barrières de sécurité à quelques mètres de la voiture du président américain. Ils lui ont crié « We need help, nous avons besoin d'aide ». Ils voulaient qu'ils viennent les saluer, leur parler. Ils demandent de quel type d'aide ils veulent parler parce qu'ils sont plutôt favorables ici dans ce Texas rural au port d'armes, mais ils voudraient néanmoins que le président américain les aide, les interpelle, viennent vers eux. Le président est désormais parti assister à une messe ici à Uvalde. Il rencontrera cet après-midi les familles des victimes, les proches, les survivants également, pendant une rencontre qui sera vraiment à l'abri des regards et des caméras, avant de rencontrer aussi les premiers secours, ceux qui sont intervenus dans cette école, et de repartir.
Merci Sébastien Paour. Excusez-nous pour cette liaison un peu hachée, mais on a compris l'essentiel de vos propos. Sébastien Paour, en direct d'Uvalde, au Texas. En Ukraine, alors que les combats s'intensifient dans la région du Donbass et que l'armée russe semble sur le point de s'emparer de toute la région de Louhansk, Volodymyr Zelensky s'est rendu aujourd'hui sur le front de l'Est pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, il y a un peu plus de 3 mois. Le président ukrainien a rendu visite aux troupes à Kharkiv. Éric Bégala.
Le symbole du déplacement est d'importance. Kharkiv, c'est la seconde ville du pays et comme à Kiev, les Russes n'ont pu ni la réduire ni même l'encercler et leur première ligne se trouve dorénavant à plusieurs dizaines de kilomètres de la ville. Le président Zelensky a pu discuter avec l'état-major ukrainien en charge de la défense de la zone ainsi qu'avec le gouverneur civilo-militaire de la région. Selon le site et la chaîne Telegram de la présidence ukrainienne, le gouverneur a confirmé au président qu'un tiers environ de la région administrative de Kharkiv était toujours sous contrôle militaire russe et que même dans les zones libérées, l'heure n'est pas encore à la reconstruction ni même au déminage, les agglomérations reprises étant toujours bombardées. La ville même de Kharkiv est toujours sous le feu des missiles à longue portée russes. Jeudi dernier, 5 personnes y ont d'ailleurs été tuées dans un bombardement. En tout, décompte le gouverneur, plus de 2200 immeubles ont été touchés par les bombardements russes à Kharkiv, notamment dans les quartiers nord et est. 30% du parc immobilier a été touché.
Éric Bégala, journée de tension à Jérusalem où la police est en alerte à l'occasion de la marche des drapeaux. Un défilé d'Israéliens juifs nationalistes pour qui Jérusalem est une et indivisible. Le parcours de cette journée de Jérusalem passe par le quartier musulman de la vieille ville, ce qui provoque la colère des Palestiniens et des échauffourées cet après-midi avec les policiers israéliens. Et puis au Brésil, le bilan des pluies torrentielles qui s'abattent depuis mardi dans le nord-est du pays s'est alourdi. Au moins 44 morts et 56 disparus. Selon le gouvernement du Brésil, la tempête a provoqué des glissements de terrain sur les flancs de collines ainsi que le débordement des rivières et de grands torrents de boue qui ont tout emporté sur leur passage. La colère des Britanniques ne retombe pas après les graves débordements hier soir au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions de football. Tension, mouvement de foule, tentative d'intrusion et gaz lacrymogène, l'avant-match a viré au fiasco. Le tabloïd anglais The Sun fustige l'organisation en amont du match. Le Stade de France s'est transformé en stade de farce pour le journal. La victoire du Real Madrid 1-0 face à Liverpool a été éclipsée par ces scènes chaotiques aux abords du Stade Stade de France. La faute aux supporters anglais, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui ont tenté, dit-il, de pénétrer dans le stade avec de faux billets. La polémique enfle et les supporters anglais quittent aujourd'hui Paris très en colère, comme Michael, rencontré garde du Nord par Martin Choc.
Il n'y avait pas d'instructions, aucun endroit pour savoir où aller, donc on a suivi la foule. La police française a bloqué l'entrée principale. Il y avait beaucoup de policiers ou de militaires avec des armes. Ils ne nous aidaient pas, ils ne nous parlaient pas. J'ai vu la police frapper des gens avec des matraques. Il y avait également des locaux qui nous tournaient autour. Certains essayaient de nous voler, de nous arracher nos tickets. Une expérience horrible. J'ai assisté à des matchs en Ukraine ou à Madrid, par exemple, et c'était bien mieux organisé que ça. C'était vraiment effrayant. Horrible, un vrai désastre.
Et les clubs de Liverpool et l'UEFA demandent une enquête. La France est donc pointée du doigt, et notamment sa capacité à organiser de tels événements. Et en France, l'affaire devient politique. L'opposition s'indigne et parle d'une humiliation. Élodie Forêt.
Marine Le Pen, Éric Zemmour, même ton depuis hier soir. Les deux anciens candidats à la présidentielle dénoncent l'impuissance du gouvernement, du ministère de l'Intérieur et accusent surtout Gérald Darmanin de mensonge. Car selon Marine Le Pen, ce ne sont pas des supporters anglais qui seraient à l'origine des troubles, mais des bandes de voyous de la Seine-Saint-Denis. Même chose pour Éric Zemmour qui décrit sur Twitter les racailles, je cite, qui auraient sauté par-dessus les barrières du Stade de France et agressé des supporters. À l'autre bout de l'échiquier politique, Jean-Luc Mélenchon raille l'habituel refrain raciste de l'extrême droite, mais s'en prend lui aussi au ministre de l'Intérieur, considérant que ces images lamentables sont le résultat d'une mauvaise doctrine d'emploi des forces de l'ordre. Le rôle de la police, c'est d'empêcher que ça tourne mal. Or là, au contraire, affirme-t-il, ils ont aggravé les choses.
Et une réunion ministérielle se tiendra demain lundi pour cerner les dysfonctionnements dans l'organisation de la finale. La politique ce dimanche, hors polémique sur les incidents du Stade de France. Éric Woerth, président de la commission des finances de l'Assemblée, qui a quitté les Républicains pour rallier Emmanuel Macron, explique n'avoir aucun regret de ne pas être ministre du gouvernement d'Elisabeth Borne. Éric Woerth, invité de questions politiques sur France Inter, précise le rôle des députés étiquetés ensemble qui, comme lui, viennent de la droite.
Montrer que cette droite responsable, cette droite de gouvernement, elle vit dans le gouvernement et dans la majorité. Bruno Le Maire,
vous
Gérald Darmanin, beaucoup d'autres.
Vous êtes un député parmi un océan de députés c'est de la majorité.
L'océan de députés de la majorité, une partie vient de la droite, une partie a des convictions de droite, même s'il n'adhérait pas.
Donc vous allez regrouper
au même sens que les sociaux-démocrates essaieront de lui donner une couleur un peu plus sociale. Et au fond, c'est ce qui fera l'équilibre. Le tout, c'est d'avoir des résultats. Il faut des résultats. On doit avoir des résultats sur l'emploi, des résultats sur le pouvoir d'achat, des résultats sur notre capacité à protéger la planète, des résultats sur la sécurité, des résultats sur la famille. Il faut des résultats tangibles. Et les 5 ans qui viennent, l'enjeu est considérable. Le député, il représente une politique. Et la politique que je représente au sein de la majorité, j'espère au sein de la future majorité présidentielle, s'il y a majorité présidentielle, c'est une droite responsable. Il faut donner à Emmanuel Macron la majorité dont il a besoin.
Éric Woerth dans Question politique avec Thomas Snegaroff. La préfecture de Seine-Maritime annonce ce soir que l'orque égaré depuis plusieurs jours dans la Seine va être euthanasié. Une décision prise pour mettre fin aux souffrances de l'orque. Des analyses montrent que l'état de santé de l'animal est critique. L'orque souffre de lésions nécrotiques, une affection profonde du derme et de l'épiderme. Le mois de mai avait la deuxième édition cette année avec le soutien du ministère de la Transition écologique et du ministère chargé des Sports. Et la pratique du vélo, dopée par la pandémie, connaît en France depuis 2 ans un développement encore jamais vu. Et en ce moment, les initiatives se multiplient pour nous mettre tous en selle. L'opération Mai à vélo, en passant par le salon Vélo in Paris qui se tient ce week-end. Une filière vélo jusqu'à présent en plein essor, François Ballarin.
En 2021, le vélo a été le deux-roues le plus vendu devant les trottinettes électriques, une tendance qui a du mal à se confirmer ces derniers mois, selon Jérôme Valentin, président de Cycle Europe, entreprise qui assemble des vélos dans l'Aube.
Le trafic au magasin n'a seulement redémarré qu'en avril.
Un redémarrage en douceur après l'hiver où les gens achètent peu de vélos. Résultat probable, selon Jérôme Valentin, un léger ralentissement pour la filière en 2022.
Une croissance limitée. plutôt qu'une forte croissance comme les autres années. Il n'est pas impossible non plus que le deuxième semestre, finalement, soit un très bon deuxième semestre.
Si les ventes de vélos repartent à leur niveau de 2021, il faut aussi développer les infrastructures, pistes cyclables et lieux de stockage. Autre nécessité, la création d'une véritable industrie française du cycle pour moins dépendre de l'Asie. Guillaume Gouffier-Chat, député du Val-de-Marne, auteur d'un rapport sur la filière vélo.
Dans les années qui viennent, si nous tenons nos objectifs de développement, ce sont plus d'une centaine de milliers d'emplois qui pourraient être créés dans ce secteur.
La France a donc encore du chemin à parcourir. Les Français, bons derniers des pays qui pédalent en Europe, loin derrière les Pays-Bas, la Belgique ou encore l'Italie.
Et un problème dont on souffre moins à vélo, c'est bien les bouchons. Dimanche noir aujourd'hui sur les routes pour les retours du week-end de l'Ascension. 950 km de bouchons, un pic relevé un peu avant 18h. Et à l'heure actuelle, les routes sont toujours très chargées, notamment du côté de Paris. En Ile-de-France, selon Bison Futé et Vinci Autoroute, la situation se complique sérieusement là depuis 19h. Et les routes resteront chargées, notamment la 7 et la 9 jusqu'à ce soir, jusqu'à cette nuit, jusqu'à minuit. Un hommage, un album hommage à la musicienne chilienne Violeta Parra. Dans les années 60, elle a marqué le monde de la musique en participant à la création du mouvement folk. Violeta Parra s'est donné la mort en 1967 à l'âge de 50 ans. Et cet album, Violeta y el Jazz, permet de redécouvrir une légende de la musique latino-américaine, la chanteuse la plus populaire du Chili. Un album imaginé par un ténor suisse, Stéphane Capron.
Fils de Chilien, le ténor suisse Emiliano González Toro a été bercé dans son enfance par les mélodies de Violeta Parra. Il a souhaité, à travers cet album, retracer la vie courte mais intense d'une chanteuse qui allait puiser son inspiration dans les classes populaires.
Elle avait cette espèce de mission de faire le tour des campagnes et des villes et des villages pour aller recueillir un peu le folklore à l'essence et la transformer pour en faire elle-même des compositions. C'est ce que dit même d'ailleurs Bob Dylan, qui lui voue un hommage total. Elle a créé la folk.
Certaines chansons de l'album ont été revisitées par le pianiste de jazz, Thomas Enko.
C'est vraiment génial de prendre quelque chose comme ça, se mettre au piano et puis commencer à imaginer d'autres choses, d'autres harmonies, des rythmes, tout un groupe. Et donc voilà, j'ai fait un peu ça sur toutes les chansons. Il y a des chansons qui évoquent la colère, terrible d'ailleurs. Il y en a d'autres qui sont très engagés. Tout ça, ben, c'est inspirant pour écrire de la musique.
Je suis bien.
Mais cette Chilienne a beaucoup voyagé à travers le monde. En Europe, elle tombe amoureuse de l'anthropologue suisse Gilbert Favre. Elle écrit pour lui « Gracias a la vida » qui est devenue l'une des chansons les plus populaires de l'Amérique latine.
« Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la manta de mis pies cansados con ellos anduve. »
Voilà, Gracias a la vida, chanson la plus populaire de Violeta Parra sur l'album Violeta y el Jazz, 19h14. La page sport de cette édition. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Frédéric.
Le début des huitièmes de finale de Roland-Garros, un programme royal aujourd'hui. Et en ce moment, sur le court central, Raphaël Nadal.
Oui, pour le match le plus attendu de la journée, le maître de la terre battue face au jeune Canadien Félix Auger-Aliassime. Bonsoir Jean-Pierre Bimaud.
Bonsoir Vincent.
En direct de Roland-Garros, c'est Raphaël Nadal qui doit batailler face au Canadien.
Oui, parce que l'Espagnol a perdu le premier set de sa quinzaine ici à Roland-Garros, 6-3 dans la première manche face à Félix Auger-Aliassime, le jeune Canadien, alors que Nadal est apparu assez tendu, peut-être un peu plus crispé, mais ensuite au milieu de la deuxième manche, il a gagné le jeu qu'il fallait, il a réalisé le break à 4-3 et ensuite il a confirmé et il s'est imposé 6-3 puis 6-2 et là actuellement Raphaël Nadal est mené dans le quatrième set 2-1, il est au service néanmoins pour recoller au score dans un central Philippe Châtrier qui était très très bien rempli cet après-midi. Il faut dire que c'est toujours l'attraction évidemment pour les spectateurs de voir celui qui vise un 14e titre ici à Roland-Garros. On parlait du Real Madrid avec les 14 Ligues des Champions. Il y était d'ailleurs hier au Stade de France, Raphaël Nadal, mais lui aussi, il vise le 14. Et l'enjeu de ce match, il est très important pour l'un et l'autre des deux joueurs puisque en face, au tour suivant, Vincent, il y aura du lourd et même du très lourd.
Oui, ce sera contre Novak Djokovic et plus tôt dans la journée, le Serbe a fait forte impression.
Oui, puisque Djokovic qui gagne à Roland-Garros, c'est aussi un train peut-être qui arrive à l'heure, mais tout de même, 2h15 de match, mais 3 sets très bien géré par le numéro 1 mondial. 6-3, 6-1, 6-3. Novak Djokovic, qui en conférence de presse tout à l'heure, a parlé notamment de son prochain adversaire, Rafael Nadal, en disant que c'était encore un énorme défi pour lui, même s'il faut se souvenir que Djokovic avait battu l'Espagnol en demi-finale l'an dernier.
Voilà, et ce quart de finale possible, hein, c'est encore sûr, Novak Djokovic, Rafael Nadal, sera joué mardi. Alexander Zverev s'est qualifié également pour les quarts de finale. Et puis ce soir, le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz tentera de se qualifier. Il affronte le russe Karen Khachanov.
Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco et toujours pas de victoire pour Charles Leclerc.
Encore raté, parti en pole position, le pilote monégasque n'a pris que la quatrième place d'un Grand Prix perturbé par la pluie et par plusieurs incidents de course. La victoire revient au pilote Red Bull Sergio Pérez qui a devancé Carlos Sainz et Max Verstappen. Max Verstappen qui reste en tête du championnat du monde. Et puis dans le championnat du monde de MotoGP, Francesco Bagnaia a remporté devant son public le Grand Prix d'Italie. Deuxième de cette course, le français Fabio Quartararo conserve la tête du championnat.
Le match de la peur et de l'espoir ce soir pour les footballeurs stéphanois et auxerrois.
Match retour des barrages Ligue 1, Ligue 2. Au match aller, les deux équipes avaient fait match nul un partout. Le suspense reste entier pour savoir qui jouera en Ligue 1 et en Ligue 2 la saison prochaine. Bonsoir Cédric Guillou.
Bonsoir Vincent.
Vous êtes en direct avec nous du stade Geoffroy Guichard. Cette rencontre a débuté il y a un quart d'heure. Et cette question, Cédric, après la relégation des Girondins de Bordeaux, un autre grand nom du foot français, l'AS Saint-Etienne, va-t-il également disparaître de l'élite ?
Ah bah c'est toute une ville, hein, Vincent, qui retient son souffle ce soir, alors que le score est toujours de 0-0. Pour le moment, Saint-Etienne qui a un petit avantage après le match aller où les Stéphanois ont ramené le nul, un but partout du côté d'Auxerre. Mais c'est vrai qu'on a peur. On a peur ici du côté de Saint-Etienne de redescendre en Ligue 2. La dernière descente, c'était en 2001. Les Verts avaient mis 3 ans pour remonter. Depuis, ils sont restés en première division. Mais après cette saison chaotique, après cette saison très difficile, eh bien les joueurs de Saint-Etienne jouent effectivement leur peau ce soir face à une équipe d'Auxerre qui, elle, eh bien envisage de remonter pour la première fois depuis 10 ans. On sent la tension sur la pelouse, même s'il y a eu de belles occasions pour les Stéphanois en début de partie, notamment par Denis Bouanga. On sent beaucoup, beaucoup de tension du côté des supporters, du côté des joueurs, du côté de Pascal Duprat. Il y a 90 minutes pour rester en Ligue 1 du côté de l'AS Saint-Etienne. 90 minutes pour essayer de remonter en Ligue 1 pour la JOCR. Match qui tarde un petit peu à démarrer justement, Vincent, parce que vous vous en doutez, il y a énormément, énormément d'enjeux. 19 minutes, 0-0 pour l'instant.
C'est la Guillou en direct du stade Geoffroy Guichard. Une semaine après avoir décroché le titre de championne d'Europe, les footballeuses de l'Olympique Lyonnais pourraient être sacrées ce soir championne de France. Elles affrontent leur grande rivale, les joueuses du Paris Saint-Germain au stade Jean-Bouin à Paris. Un match nul suffirait aux Lyonnaises pour réussir ce doublé. Les handballeuses de Metz, championnes de France pour la 24e fois de leur histoire. Elles ont dominé Brest cet après-midi, 25-22 lors de la finale retour de ce championnat. Et puis l'épilogue du Tour d'Italie cycliste cet après-midi, à côté des arènes de Vérone. Victoire finale pour Jay Hindley, qui devient le premier Australien à remporter le Giro.
Et il y avait aussi du canoë-kayak au programme ce week-end. L'équipe de France de slalom a lancé sa saison internationale en Slovaquie, au championnat d'Europe. Parmi les 13 athlètes tricolores présents, le tenant du titre en canoë, Denis Gargaud, qui termine 9e de ces championnats. Le triple champion du monde, médaillé d'or aux Jeux de Rio, a un objectif, Paris 2024. Et pour y arriver, Denis Gargaud travaille une toute nouvelle technique de pagaie. Winnie Claret l'a rencontré en plein stage olympique à Vers-sur-Marne, en région parisienne, et avant son départ pour les championnats d'Europe, c'est le long format de ce soir.
On a ouvert les vannes du stade d'Eau Vive à Vers-sur-Marne, futur site de Paris 2024 pour le canoë slalom. Denis Gargaud s'élance, la pagaie à droite, et loupe une porte qui décidément lui donne du fil à retordre.
En canoë, on pagaie soit à gauche, soit à droite, parce qu'on n'a qu'une seule rame. On n'a pas une double pagaie comme en kayak. Et donc, quand on est petit, on nous apprend à choisir un côté. J'ai fait toute ma carrière à gauche, et aujourd'hui, j'essaie d'apprendre, réapprendre à pagayer à droite. Et l'objectif, c'est d'être aussi fort à gauche qu'à droite. C'est un objectif qui est très ambitieux. C'est un petit peu comme si un joueur de tennis avait deux coups droits et deux revers.
Sur l'eau, c'est frappant. Il change de prise en une fraction de seconde, ce qui lui permet de ne plus se tordre quand il passe une porte à droite, alors qu'il pagaie avec la main gauche. Mais le geste n'est pas encore naturel pour l'athlète.
Il y a déjà un aspect cérébral, parce que je suis habitué à me positionner, à positionner mon corps et mon embarcation avec un appui à gauche. Aujourd'hui, il faut que j'apprenne à le faire avec une pagaie à droite. Donc au niveau du regard, au niveau de la compréhension, de la mobilité, de la propriété, proprioception, c'est des choses qui évoluent et qui me perturbent. Et après, au niveau physique, ben, j'ai pas la même transmission de la force que je peux transmettre à mon bateau par la main gauche. J'ai pas la même avec la main droite.
Une technique qui pourrait à terme lui faire gagner jusqu'à 3 secondes sur une descente, c'est considérable. L'entraîneur national Marianne Aguillon suit de près la séance de Denis Gargaud.
C'est toujours difficile de sortir de sa zone de confort technique. Donc là, il explore de nouvelles sensations, de nouvelles trajectoires, de nouvelles façons de réaliser un parcours. Donc c'est sûr que c'est beaucoup de chamboulements.
Pagayer des deux côtés, c'est encore rare chez les hommes. Plus commun, en revanche, chez les canots et dames, selon la coach.
En général, elles pagayent des deux côtés, c'est-à-dire qu'elles changent de bordée. Elles font ça quasiment depuis le début, depuis une dizaine d'années qu'elles ont commencé le canoë. Denis l'avait aussi déjà exploré en C2, en canoë biplace.
En individuel, il n'était pas question d'adopter trop vite cette technique, mais cette fois, ça y est, c'est même nécessaire pour se relancer avant les Jeux de Paris. Médaillé d'or en slalom à Rio il y a 6 ans, Denis Gargaud n'a pas pu défendre son titre olympique à Tokyo l'été dernier. Le ticket pour le Japon lui a échappé à une demi-seconde lors des sélections.
Un des traits de caractère des grands champions, c'est de savoir se réinventer, savoir se remettre en question, savoir se fixer de nouveaux objectifs. Quand on a tout gagné, bah, comment est-ce qu'on refait ou comment est-ce qu'on fait différemment? Et moi, c'est plutôt ce qui m'anime, c'est faire différemment.
Et pour l'instant, tous les feux sont au vert pour l'athlète de 34 ans.
Je redécouvre des sensations que j'ai connues quand j'étais jeune au fur et à mesure de ma progression. Et du coup, c'est très agréable en fait. J'ai l'impression vraiment d'avoir une sorte de deuxième jeunesse parce que je progresse. Alors que à mon niveau, progresser, c'était du petit détail avant. Et là, c'est au cours de la séance, je sens que je progresse. C'est jouissif. En fait.
Denis Gargaud aura tout le loisir de se tester sur l'eau vive alors que l'été s'annonce intense entre coupe et championnat du monde pour les Bleus.
Long format de Winnie Claré à retrouver sur franceinter.fr.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec le coup d'envoi demain de la campagne officielle pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Retour des panneaux d'affichage et des spots de campagne sur les radios et les télés. À noter jeudi un meeting de la NUP à Paris avec Jean-Luc Mélenchon. Le pouvoir d'achat au menu de la journée de mardi avec une première estimation par l'INSEE du niveau d'inflation pour le mois de mai, sans doute au-dessus de 5%. Sur l'agenda judiciaire, à noter le jugement mardi au tribunal correctionnel d'Angers dans l'affaire du balcon d'une résidence qui s'était effondrée, tuant 4 étudiants. Et le lendemain, mercredi, procès à Paris de la femme suspectée d'avoir agressé un pompier en marge des manifestations du 1er mai. Sur l'agenda international, la semaine débute demain à Bruxelles avec une réunion extraordinaire du Conseil européen sur l'Ukraine et l'énergie en présence d'Emmanuel Macron. Et avec une intervention du président ukrainien Zelensky. Mais le temps fort de la semaine, à noter pour jeudi, le Royaume-Uni va fêter sa reine et célébrer les 70 ans de règne d'Elisabeth II. 4 jours de célébration pour celle qui accompagne les sujets depuis si longtemps. Elisabeth II qui vient de fêter ses 96 ans à Londres, Richard Place.
Un pays à l'arrêt de jeudi à dimanche prochain. 4 jours pendant lesquels il ne sera question que de fêtes. Les célébrations XXL avec le défilé militaire Trooping the Colour jeudi dans le centre de Londres, avec un spectacle réunissant des stars mondiales comme Alicia Keys, Queen ou encore Duran Duran le samedi soir à Buckingham, et l'apothéose dimanche prochain avec la grande parade retraçant les 70 dernières années devant le Palais Royal, conclu par un concert d'Ed Sheeran. Mais les Britanniques fêteront leur monarque aussi en plus petit comité, des fêtes de famille, de quartier, de village. Dimanche midi, notamment, de longues tablées s'étaleront dans les rues pour de véritables banquets. Pas un bar, pas un restaurant qui n'a pas déjà les drapeaux accrochés à sa devanture ou les portraits d'Elisabeth II. Les pubs ont reçu l'autorisation de fermer plus tard pendant ces 4 jours. Ils ne vont pas s'en priver. Le Royaume-Uni, voilà une occasion formelle de saluer la longévité d'une reine qui bat tous les records de popularité. Londres, Richard Place, France Inter.
Et on terminera la semaine dimanche avec la journée mondiale de l'environnement. Dans l'actualité média la semaine prochaine, bon anniversaire Arte, la chaîne de télévision franco-allemande fête ses 30 ans. Demain, Delphine Evenou a rencontré Bruno Patino, le président d'Arte, et la chaîne peut encore grandir.
Si je regarde dans le rétroviseur, je mesure le chemin parcouru et je me dis que le pari est sans doute plus que gagné du point de vue, encore une fois, de la réception de la chaîne, de son utilité. Je pense aussi du travail que l'on fait avec l'ensemble des créateurs, des créatrices audiovisuelles européennes. Mais il faut jamais regarder dans le rétroviseur, il faut surtout regarder devant. Et devant, vu le défi européen dans des temps troublés qui nous restent à relever, je pense que l'ensemble des équipes, d'ailleurs, on est plutôt motivés sur la perspective de prendre notre part et de faire des 30 prochaines années des années au moins aussi réussies que les 30 dernières. L'audience d'Arte s'est installée très fortement, même sur la chaîne, j'allais dire, on sait bien que les chaînes qu'on appelle linéaires aujourd'hui ont des audiences plutôt en baisse. Nous, on a fait plus 100% ces 7 dernières années. Et donc notre audience aujourd'hui, qui est à 2,9%, s'est vraiment installée. En numérique, Arte.tv, la plateforme d'Arte, s'est installée comme une des premières plateformes gratuites françaises. Et aujourd'hui, c'est comme cela qu'on touche un public chaque fois plus large, et aussi chaque fois plus jeune. Arte.tv est devenue une plateforme de streaming, ça fait déjà 5 ans, et effectivement, on est devenu une offre, non pas contre les grandes plateformes, moi je trouve que les grandes plateformes font un travail absolument formidable, mais j'allais dire une offre alternative, et c'est cette liberté-là que l'on donne aux gens, je pense, qui est très fortement appréciée.
L'argent, c'est le nerf de la guerre, comment vous envisagez les années à venir ?
Arte est cofinancée par la France et l'Allemagne. Donc du côté allemand, c'est une sorte de redevance allemande, qui est plutôt d'ailleurs en croissance du côté allemand, et avec en plus un soutien allemand assez fort à Arte. Du côté français, le financement, c'est la redevance à 98%. Donc pour nous, évidemment, c'est plus que le nerf de la guerre, c'est le financement global d'Arte France. Et donc, dans la structure d'Arte aussi, il faut qu'il y ait un paritarisme, si j'ose dire, entre le financement français et le financement allemand. Donc, évidemment, nous n'avons pas de doute que la France va continuer à prendre sa part.
Et pour ses 30 ans, Arte indique avoir reçu un magnifique cadeau avec sa 12e Palme d'Or pour Sans Filtre, récompensé hier soir à Cannes. Le film du Suédois Ruben Östlund est une coproduction européenne d'Arte. Au générique de cette édition, Mathias Alléon et Henri Bérec en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Antoine Quevilly à la rédaction en chef assisté de Rachid Zourdani et Sébastien Donat. Un grand merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. La météo dans un instant.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
C'est un ciel variable qui va survoler le nord de la Loire et le nord-est ce lundi, donnant une alternance de nuages et de soleil, avec parfois un risque d'ondées éparses vers la Manche et au voisinage de la frontière allemande. Dans la moitié sud, le voile nuageux aura tendance à gagner du terrain au fil de l'après-midi, avec des nuages plus lourds sur le relief des Pyrénées, des Alpes et de la Corse, occasionnant des averses parfois teintées d'orage. Les températures matinales, fraîches dans la partie nord, entre 4 et 8 en général, vont afficher 8 à 12 degrés dans le quart sud-ouest, 14 à 16 sur la Corse et de Marseille à Perpignan, 18 sur la côte d'Azur. En journée, il est prévu sur les régions méridionales des valeurs stationnaires à la veille, c'est-à-dire comprises entre 24 et 28 degrés. Plus haut, on appréciera des thermomètres gagnant entre 2 et 4 degrés, une hausse qui va se poursuivre les jours suivants.
Jean-Michel Golinski de Météo France.
Le dimanche, sur France Inter,
le masque et la plume.
Jérôme Garcin.
Et cette semaine, en direct, on s'empoigne, on s'enthousiasme, on s'émeut à propos du palmarès du 75e Festival de Cannes, avec les critiques Charlotte Lipinska, Xavier Le Herpeur, Michel Simon et Eric Neuf.
Le masque et la plume.
Tous les dimanches sur France Inter, à partir de 20h.
Écoutez, intervenez sur l'application France Inter.
Les petits bateaux, avec Good Goût, de bons petits plats pour les petits curieux.
Les petits bateaux, avant le masque et la plume, il est 19h30. Bonsoir, Noël Bréham.
Bonsoir, Frédéric Barrère, et bonne soirée.
Bonne soirée à vous, bonne émission.
Merci. Bonsoir, comment allez-vous ? En arrivant au bureau tout à l'heure, nous avons attendu l'ascenseur un moment, ce qui est rare pour un dimanche car il n'y a pas grand monde dans la maison. Et une fois à l'intérieur, la voix qui annonce les étages s'est enrayée. C'était d'autant plus bizarre que nous étions déjà au cinquième. Et puis, la cabine s'est mise à trembloter avant de sérieusement ralentir. Un gars a dit « c'est rien, il a fait ça toute la semaine ». Un autre a dit « on va s'écraser ». Moi, je me suis dit « pourvu qu'on soit sorti de là pour l'antenne ». Et le quatrième larron a juste posé cette question. Comment ça marche là-dedans ? Personne ne savait comment ça marchait là-dedans. Pas plus que je ne sais comment marche ma voiture, pas plus que je ne sais comment marche mon téléphone, mon ordinateur, la radio à travers laquelle nous sommes ensemble, la télévision, le réfrigérateur, le système électrique de la maison et même mon vélo, que je ne répare plus en mettant la chambre à air dans l'eau. Je ne maîtrise rien de ce qui fait mon quotidien, je ne maîtrise rien de ce qui fait la fluidité de ma vie. Fermez les yeux et faites-vous conduire par quelqu'un. Vous allez voir, sans jeu de mots, comme c'est inconfortable. Et pourtant, c'est bien ce que nous faisons à longueur de journée, remettre notre personne entre les mains des autres spécialistes de la spécialité. Nous ne comprenons rien aux outils dont on ne saurait se passer et on s'étonne d'être une population qui se sent un peu perdue.
Bonjour, je m'appelle Célestin, j'ai 7 ans et j'aimerais savoir comment fait le satellite pour savoir où on est dans le GPS. Au revoir, merci.
Bonsoir Célestin. François Sillion, après avoir créé un centre de recherche sur les nouveaux modes de transport urbain, vous êtes maintenant directeur technique et numérique du Centre national d'études spatiales. Alors Célestin demande comment fait le satellite pour savoir où on est dans le GPS.
Oui, bonsoir Célestin. Alors effectivement, ça paraît un peu magique parce que on se demande comment il fait pour savoir où je suis moi et tous les gens qui sont autour de moi qui interrogent aussi leur GPS. Alors, en fait, la réponse est simple. Le satellite ne sait pas où tu es, Célestin. C'est ton récepteur GPS qui calcule où tu es. Alors ça, finalement, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que c'est toi et ton GPS va te le dire à toi, mais tu ne peux pas être suivi et pisté par un satellite qui saurait où tu es en permanence. Parce que ça, ce serait pas forcément, très rigolo. Par contre, le satellite, comment il fait pour que ton récepteur puisse comprendre où tu es ? Eh bien d'abord, le satellite, il sait où il est, lui, le satellite, très précisément. Et il l'a dit à tout le monde. Donc tout le monde sait où se trouve le satellite. Ensuite, ce qui se passe, c'est ton récepteur qui va faire deux choses. D'abord, il va écouter les satellites, donc il va recevoir des signaux du satellite ou des satellites, parce que tu verras qu'il y en a plusieurs. Et grâce à ces signaux, il va faire un calcul qui lui permet de trouver à quel endroit tu te trouves. Alors, la première chose qu'il va faire, c'est essayer de comprendre, enfin, il va mesurer à quelle distance il se trouve du satellite. Comment il fait pour ça ? Alors, malheureusement, mesurer une distance, on sait faire avec une règle ou avec un double décimètre ou un mètre qu'on déroule. Là, c'est plus compliqué. Donc, il va le faire en mesurant, en fait, le temps que met une information pour venir du satellite. Ça, c'est quelque chose, tu as peut-être déjà vu, l'écho. Quand tu parles devant une falaise ou devant une montagne et que tu fais un bruit, en fait, le son va voyager jusqu'à la montagne, revenir vers toi, et du coup, tu vas entendre, deux secondes après peut-être, tu vas entendre l'écho du bruit que tu as généré. Et en fait, comme on connaît la vitesse du son, eh bien, si tu mesures le temps que met cet écho à revenir, tu pourras savoir à quelle distance se trouve la falaise ou la montagne.
Comme dans un orage, quand on compte entre l'éclair et le tonnerre.
Exactement. L'autre chose qu'on fait souvent, c'est on voit un éclair, et donc c'est quasi instantané, pas tout à fait, parce que la lumière met un certain temps, mais elle va tellement vite que c'est quasi instantané, on voit l'éclair, et plusieurs secondes après, on va entendre le tonnerre, et si on mesure ce temps, on va pouvoir savoir à quelle distance la foudre a frappé. Donc là, c'est le même principe, on a un signal, donc une espèce de bip émis par le satellite, et on peut savoir, alors il faut savoir à quand exactement il a été émis, on va mesurer quand on le reçoit, et du coup on va connaître la distance du satellite. Alors, tu me diras, la distance du satellite, ça te dit pas exactement où tu es. Et là, il faut imaginer, si tu es sur un terrain de sport, par exemple, et que tu veux savoir exactement où tu es, tu peux mesurer à quelle distance tu es de chacun des coins du terrain. Et là, bah, tu pourras faire un petit dessin. Si tu connais ces distances, tu peux te repérer. Et là, donc, c'est la même chose. On va utiliser plusieurs satellites. En fait, il en faut au moins une trentaine dans un système comme le GPS, qui sont sur des orbites différentes autour de la Tête. Et du moment qu'on en voit quatre, on est capable de faire ce calcul, donc avec chacun on va connaître la distance. Alors on pourrait dire qu'il en faut que trois parce qu'on est en trois dimensions, mais il en faut un quatrième justement pour la mesure du temps. Et grâce à ces quatre satellites en visibilité, on va pouvoir calculer très précisément à quel endroit on se trouve.
François Sillion, le GPS, ou plutôt ce qu'on appelle GPS, mais que vous nous l'avez expliqué, qui n'est pas un GPS, mais un système, un autre système. Mais ma question est-il infaillible, il se trompe jamais ?
Si, il peut y avoir des erreurs. D'abord, on mesure quelque chose, donc il y a toujours une petite erreur dans la mesure. C'est ce qui fait que le GPS, il va vous donner une précision donnée de l'ordre de quelques mètres. Alors ça peut avoir son importance. Si vous avez un GPS sur votre vélo, par exemple, il va peut-être croire que vous êtes sur une piste cyclable, alors qu'en fait, vous êtes sur la route à côté. Donc il faut quand même faire attention. Et puis, par exemple, si vous passez dans un tunnel, vous ne voyez plus les satellites et vous ne pouvez plus leur parler et donc le GPS va être incapable de vous aider.
François Sillion, chercheur en informatique, mathématiques appliquées et intelligence artificielle, est maintenant directeur technique et numérique du Centre national d'études spatiales. Ce soir, dans Les petits bateaux, Sofiane a demandé à Gilles Boeuf combien il y avait d'espèces d'animaux dans le monde. Colline a demandé quelle était la différence entre un réalisateur et un producteur de films. Et notre très british Stephen Clark répondra à Mina qui se demandait pourquoi on n'avait pas le droit de toucher la reine d'Angleterre. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Moi je m'appelle Gaël et moi j'ai 3 ans. Je voudrais savoir c'est quoi le plus vieux livre de la France. Merci.
Gaël, 3 ans, pas en retard hein Gaël. Peut-être que vous étiez comme Gaël, Laurence Angèle, à 3 ans. Vous commenciez déjà à vous intéresser aux livres ?
Je ne suis pas sûre. J'en ai pas le souvenir, en tout cas.
En tout cas, maintenant, vous êtes présidente de la Bibliothèque nationale de France. Alors, c'est quoi le plus vieux livre de la France, demande Gaël ? Le sait-on seulement ?
Alors, ça dépend ce qu'on entend par livre. Si, je pense que c'est à ça que tu penses, Gaël, si tu penses à un ouvrage imprimé, comme ceux que peut-être, parce que même si tu es très en avance, peut-être que tu ne lis pas encore par toi-même, que tes parents ou que tes amis ou tes grands-parents te lisent le soir avant de te coucher, alors ça, on sait le dire. C'est un livre imprimé. Après l'invention de l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie, c'est Gutenberg, on est au XVe siècle. Alors là, on sait très précisément dire quand a été publié, imprimé, le livre, donc le plus ancien en France, c'est 1470. C'est un livre qui sert aux élèves pour améliorer leur latin. Donc c'est un livre de cours, un livre de leçons qui a pour vocation de faire répéter le latin. Donc ça, c'est assez facile, en fait.
Vous l'avez vu, évidemment.
Alors, en l'occurrence, je ne l'ai pas vu, mais nous l'avons. Ce que je voudrais rajouter, parce que c'est quand même important, le livre, bien sûr, c'est le livre imprimé, mais il faut que Gaël, tu saches qu'avant qu'il y ait des livres imprimés, il y avait des livres écrits à la main. Et donc, ça ressemble quand même à un livre, physiquement.
Avec des pages qu'on tourne.
Avec des pages qu'on tourne. C'est exactement la même chose, avec des histoires qu'on raconte, ou en tout cas, des textes dont on a besoin, parce qu'il, pour qu'il y ait impression, pour qu'il y ait une imprimerie qui se mette en place, ou quelqu'un qui recopie un livre, eh bien, c'est parce qu'il y a un besoin. Il y a derrière, au bout de la file, un lecteur qui a besoin de ce livre. Et donc, avant qu'on invente l'imprimerie, on écrivait des livres, on recopiait des livres manuscrits. Les livres existaient, mais ils étaient manuscrits. Ils étaient copiés donc à la main par des copistes professionnels, par des moines dans les abbayes. Et là, la réponse à la question de Gaël est beaucoup plus compliquée parce qu'on ne sait pas dater le premier livre manuscrit, tout simplement parce qu'on les écrit dans plusieurs endroits à peu près en même temps et donc on ne sait pas dire celui qui est en effet le plus ancien. Donc c'est une réponse qui est un petit peu plus difficile.
C'est plus ancien, c'est plus réparti et comme il n'est pas imprimé, il ne sort pas d'une machine. Donc finalement,
on n'a pas la date, voilà. Même si cela se fait essentiellement dans les abbayes, donc on pourrait repérer. On sait que d'ailleurs, le moment où on commence à copier assez massivement, tout est relatif, des ouvrages, c'est le 7e siècle, donc on sait situer la période, mais pas la date précise. Et puis peut-être, parce que quand même cette histoire du livre, cette histoire de la transmission, cette histoire de la lecture, elle est très ancienne, mais il faut se souvenir qu'avant qu'il y ait des livres, comme vous le disiez, un objet dont on tourne les pages, mais il y avait des rouleaux, il y avait aussi des plaques de pierre sur lesquelles on écrivait et qui étaient transportées pour permettre la lecture de documents. Donc l'écriture, évidemment, et la lecture existent bien avant qu'on ait des livres, c'est-à-dire un objet dont on connaît bien la forme aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est important parce que l'histoire de la bibliothèque et l'histoire du livre, c'est cette histoire-là, c'est l'histoire de la transmission. On n'écrit jamais pour soi, on écrit pour que quelqu'un nous lise, quel que soit le support qu'on utilise pour ça.
Laurence Angèle, présidente de la Bibliothèque nationale de France, où je vous invite bien entendu à vous rendre ainsi que dans toutes les bibliothèques.
To spin a sudden change in the atmosphere. Now these good roads have changed to stone, and the hole in my heart is now filled with gold. True, maybe we've done your share wrong and left some angels with a broken heart. Come what may, I'm standing with you.
You are my one and only. You make my heart.
One Only, c'était Gabriel, c'est extrait tout frais tout chaud de la playlist de France Inter.
Les petits bateaux sur France Inter.
La reine d'Angleterre a célébré son jubilé de platine, c'est-à-dire ses 70 ans de règne jeudi dernier.
Bonjour, je m'appelle Mina et j'ai 10 ans et j'aimerais savoir pourquoi ne peut-on pas toucher la reine d'Angleterre. Merci de me répondre, au revoir.
Alors, la question de Mina, pourquoi ne peut-on pas toucher la reine d'Angleterre? Vous en parlez dans votre dernier livre, Stephen Clarke, comme ça, vous dites-vous?
Oui.
Dites-le-moi.
Oui, c'est Stephen Clarke.
Presque. Qui s'appelle Élisabeth II ou l'humour souverain et c'est édité chez Albin Michel. Alors, pourquoi ne peut-on pas toucher la reine d'Angleterre? Est-ce que c'est vrai, d'abord, ce que demande Mina?
C'est un peu vrai, surtout selon les journaux britanniques. On ne va pas être exécuté si on touche la reine, mais c'est vrai que...
C'est une chance.
C'est vrai que les journaux britanniques s'excitent beaucoup si, par exemple, un chef d'État ose toucher la reine. Je me souviens encore de... Je suis encore traumatisé par la visite de la reine à Paris en 2004, où je me souviens qu'elle était accueillie par le président Chirac, qui en fait a pris son bras, il a touché le coude. Alors les journaux anglais ont dit, mais c'est quoi ce français séducteur qui touche la reine? C'était une grande excitation.
Ah, c'était très cavalier.
C'était trop, on fait pas ça à la reine. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à l'embrasser ou quoi? Mais c'était pas la première fois, parce que aussi, il y a assez longtemps, il y avait un premier ministre australien qui a osé faire la même chose. Il a même mis le bras autour des épaules de la reine pour l'accueillir quelque part. Et les journaux anglais étaient en furie. Ils l'ont surnommé « The Lizard of Oz ». C'est une blague un peu compliquée, mais « The Wizard of Oz », c'est le sorcier de Oz dans le film. Et « Lizard », c'est un lézard, et « Oz », c'est l'Australie. Donc, ils l'ont appelé un lézard, puisqu'elle a osé toucher la reine. Et c'est vrai que normalement, on n'est pas censé, par exemple, serrer la main de la reine sans qu'on elle vous propose. Et aussi, elle porte toujours des gants. Et on pense donc qu'elle ne veut pas être touchée. Mais en fait, ça, apparemment, c'est pour des raisons d'hygiène. Parce qu'elle, dans sa carrière, où elle rencontre plein de gens tout le temps, elle a apparemment serré la main à des centaines de milliers de gens. Mais il y a des vieilles traditions avec la reine qui changent un peu. Elle modernise. Apparemment, maintenant, on n'a plus absolument besoin de faire une révérence devant la reine. Normalement, on est censé l'appeler votre majesté ou ma'am, comme madame, ma'am. Ça, les gens le font par respect.
Dans votre livre, vous expliquez qu'elle faisait la révérence petite fille à son grand-père.
Ah oui, parce que son grand-père était roi. Et donc, tout le monde, même les enfants de la reine, lui font une révérence devant elle, parce que les enfants respectent absolument le protocole parce que c'est leur raison d'être, leur raison de vie. Moi, une fois, j'ai rencontré une seule fois un membre de la famille royale, c'était un duc de quelque chose qui était cousin de la reine. Moi, je ne le savais pas vraiment, et on me l'a présenté, et moi, j'ai juste dit, genre, « Hello, how are you ? Bonjour, comment ça va ?» Et j'ai senti que le vieux type, il était hyper crispé par cette personne qui n'avait pas de respect. C'était une sorte de gaffe, mais personne n'est venu m'arrêter et je ne suis encore pas dans la tour de Londres, donc ce n'est pas grave.
Pourtant, le vieux type, ce n'est pas extraordinairement bien élevé non plus. Nous adorons Stephen Clarke pour son accent, pour son humour, pour ses connaissances, pour ses livres dont vous trouverez les références sur le site des Petits Bateaux. Peut-être avez-vous vu cet hiver au cinéma ce beau documentaire animalier, La Panthère des Neiges.
Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 17 ans. Et j'aurais voulu savoir quelle était la différence entre un réalisateur de film et un producteur de film. Voilà, merci de me répondre.
Bonsoir Colline, nous avons proposé votre question à une réalisatrice. Vous êtes, Marie Amiguet, la co-réalisatrice de cette belle Panthère des Neiges. Il y a donc, si vous êtes co-réalisatrice, il y a un co-réalisateur qui est Vincent Meunier, mais vous n'êtes pas producteur alors? Est-ce que vous pouvez répondre à Colline, quelle est la différence?
Alors, en plus, si Vincent, il est coproducteur.
Ah, donc vous? Ah, c'est pas mal.
Ouais, oui. Ouais. Donc nous, on est, c'est un cas particulier. C'est que un réalisateur, c'est celui qui pense le film, qui l'a écrit, c'est son idée, c'est celui qui porte le film et qui va le réaliser en termes d'image, en termes de son, qui va faire les choix esthétiques du film, les choix de musique. Et il va, c'est vraiment lui qui porte le côté artistique. Le producteur, c'est celui qui va permettre que le film se fasse en termes d'argent, de budget. C'est lui qui va trouver les sous, les sponsors, les mécènes, pour faire en sorte que ce film existe à la télé, au cinéma, sur le web.
Mais aussi bien pour les films documentaires que pour les fictions.
Exactement. Aussi bien pour les documentaires que pour les fictions. C'est vraiment celui qui est, malheureusement pour lui, souvent dans son bureau, à faire des contrats, à faire des budgets, des plans de financement, à tenir le portefeuille. Voilà. Et il arrive, de temps en temps, et même souvent, que, surtout dans les documentaires, que le réalisateur soit aussi coproducteur. Parce qu'il a investi déjà une grosse partie de son temps dans la fabrication des images. Nous, on fait du documentaire animalier, en l'occurrence sur la Panthère des Neiges. Vincent Meunier a filmé pendant 5 ans tout seul les animaux et la panthère, avant de nous inviter sur son voyage avec Sylvain Tesson pour découvrir les animaux qu'il avait rencontrés et chercher la panthère. Donc, quelque part, lui, il a voulu rester coproducteur de son film parce qu'il avait déjà beaucoup investi de temps et d'argent. Et puis, il y a eu d'autres coproducteurs qui sont venus, qui sont Paprika Film et qui ont apporté d'autres connaissances qu'on n'avait pas, que Vincent n'avait pas, et notamment qui ont permis de trouver un diffuseur. Le diffuseur, c'est celui qui va permettre au film de se retrouver sur une chaîne télé ou dans un réseau cinéma. Nous, c'était Haut et Court, mais ça peut être... Il y en a plein.
Eh bien voilà, je vous invite, si vous ne l'avez pas, ça fait 2 fois que je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à regarder cette Panthère des Neiges. Et évidemment, plus l'écran est grand et plus c'est beau, mais la voir à la télévision, c'est mieux que rien.
Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Moi, non. Tu crois?
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, priva travailla vaillamment.
Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites.
Nous sommes toutes données le père inconnu. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté
qu'il avait sur la joue.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Aimant la vie tournait, les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu d'appeler coup de foudre aux sauvages passions.
Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison.
Nous avons toutes deux une âme délicate, artiste passionné,
musicienne,
acrobate,
cherchant un homme beau,
cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du plomb dans la cervelle,
je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris.
Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas, alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Deux cœurs quatre prunelles à embarquer à l'Egretto. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
C'était les sœurs, la chanson des sœurs jumelles, bien entendu, vous l'aviez reconnue. Musique, Michel Legrand. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants nous posent des questions, des enfants petits et grands, justement. Et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Soufiane. J'ai 8 ans. Je voudrais savoir combien y a-t-il d'espèces d'animaux dans le monde. Merci.
Bonsoir Sofiane, dis donc, quelle question Sofiane? Nous la proposons à un professeur à la Sorbonne Université, à Paris, président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité et qui a été président également dans un endroit où tu es sûrement allé, ou en tout cas j'espère que tu iras, le Muséum National d'Histoire Naturelle, et puis un autre endroit où tu iras peut-être assister à des conférences, professeur invité au Collège de France. Voilà Sofiane, tu vois, on ne se moque pas de toi. Combien y a-t-il d'espèces d'animaux dans le monde, Gilbert?
Bonjour Sofiane, c'est une très bonne question, tu sais, parce que on parle de vivant ou de biodiversité, hein, tout ce qui vit sur la Terre. Et là-dedans, tu as des bactéries, plein de bactéries. On en a plein dans nous et sur nous. Tu as des protistes, hein, des cellules un peu plus grosses avec des noyaux. Tu as des champignons, des plantes et des animaux. Alors c'est le mot animaux qui t'intéresse. Combien d'animaux? Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui sur la Terre à peu près, hein? Alors pour la connaître, il faut qu'on l'ait rencontré, qu'on l'ait dessiné, qu'on l'ait photographié, qu'on ait regardé son ADN et qu'on l'ait déposé dans un musée. C'est comme ça que l'espèce est reconnue, elle est déposée dans un musée, on peut aller la voir. Si on trouve une qui lui ressemble, je vais vérifier avant qu'elle n'a pas déjà été décrite. Et les animaux, en gros, sont un peu plus de 2 millions d'espèces, 2 millions d'espèces vivantes, tout confondues. C'est à peu près 1,3 million d'espèces animales. C'est les plus abondants dans nos connaissances actuelles.
D'accord.
Parce qu'on les connaît mieux, on les a regardés plus. Peut-être que demain, avec plus de connaissances, on trouvera plus de bactéries, par exemple, tu vois. Alors les animaux, c'est quoi? C'est généralement des êtres vivants qui savent se déplacer, mais pas tous. Hein, un corail, une fois qu'il est bien fixé, il se déplace plus. Mais ses larves se sont déplacées.
Mais le corail, c'est un animal qui ressemble à une plante.
Oui, un petit peu. Ouais. C'est un symbiote, hein. Il a des algues qui vivent dans lui. Les premiers animaux, ce sont les éponges marines. Hein. C'est là qu'on commence la classification des animaux. Alors elles aussi, quand elles sont très jeunes, elles sont libres dans l'eau. Et une fois fixées, jusqu'à la fin de leur vie, elles resteront là. Donc des éponges, jusqu'aux mammifères, hein, et nous on appartient aux mammifères, nous sommes des primates. Ce sont des animaux, ils doivent trouver à manger à l'extérieur, hein, ils ne sont pas comme les plantes qui sont capables de faire de la photosynthèse. Hein. Et ces animaux-là sont partout, tout le temps, ils vivent depuis des grands fonds marins au sommet des montagnes, ils ont très bien réussi. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on leur fait pas mal de mal.
Donc la définition d'un animal, Gilles Boeuf, c'est pas forcément un être qui se déplace, c'est un être qui se nourrit de quelque chose qui vient de l'extérieur, voilà, et qui éjecte aussi.
Oui, bien sûr, il émet des déchets dans le milieu, bien sûr. L'animal, en général, il est mobile, en général. Mais en c'est général. Vrai qu'il y a plein de cas où c'est... Je parle de mes éponges, une fois qu'elles sont adultes, elles sont plus mobiles. D'ailleurs, en mer, c'est intéressant de regarder les animaux marins, parce que ce sont les plus anciens. Les animaux apparaissent dans l'océan, et au bout d'un certain temps, certains pourront sortir. Tu sais, aujourd'hui, sur l'océan, il y a 12 groupes d'animaux qui n'ont jamais été capables d'en sortir. Ils sont apparus là, ils sont jamais venus sur la Terre. Alors que tout ce qui vit sur la Terre est déjà avant apparu dans l'océan, mais il y en a 12 qui n'ont jamais été capables de sortir. Par exemple, un groupe que tu connais bien, les étoiles de mer, les oursins, les concombres de mer, ce sont les échinodermes, ben eux, ils sont toujours marins, ils n'ont jamais pu sortir de l'océan.
Et enfin, Gilles Boeuf, y a-t-il des animaux qui étaient dans la mer, qui sont allés sur Terre et retournés dans la mer?
Oui, c'est une très bonne question. Les baleines, hein, il y a 35 millions d'années, les baleines couraient dans le désert des côtes du Pérou et du Chili. Elles n'étaient pas aussi grosses qu'aujourd'hui. Et elles avaient développé des sens particuliers, comme ce qu'on appelle l'écholocalisation. Hein. On émet des ondes et on les décode au retour. Et ce sens-là a été très utile quand on est revenu à l'océan. Les baleines sont revenues à l'océan beaucoup plus récemment.
Merci beaucoup Gilles Boeuf. Je vous parlais en début d'émission de cette technologie de pointe qui peuplait notre quotidien et dont nous ignorions tout. Hélas, la plupart d'entre nous ignorent aussi des choses basiques. Connaissez-vous la hauteur d'une chaise, d'une table, la largeur d'une porte, la dimension d'une place de parking, le poids d'un mètre cube de bois? David Hénon, auteur de La vie matérielle, mode d'emploi aux éditions Carnet Parallèle, souhaite nous réconcilier avec cette vie matérielle aussi indispensable qu'intéressante. À travers une série de cas pratiques, il nous ouvre les yeux sur ces objets qui ne sont pas nos ennemis, animés par une espèce de mystérieuse et diabolique magie, mais nos amis, ne demandant qu'à nous être agréables pour peu que nous les considérions. Voici un tout petit extrait de la page 112. Quelle est la différence entre une vis, un écrou et un boulon? La vis est la partie mâle que l'on peut visser dans divers matériaux ou dans un écrou, la partie femelle, généralement de forme hexagonale. Le boulon, quant à lui, désigne l'ensemble composé de la vis et de l'écrou. Et au milieu, il peut y avoir la rondelle. Cette vie matérielle mode d'emploi est éditée chez Carnet Parallèle, les de David Hénon. Podcastez mes amis, ces petits bateaux par l'application Radio France. Guillaume Roux, Jean-Baptiste Audibert, Marjorie Devoucou, Noël Bréham. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. Suivre Jérôme Garcin avec un masque et la plume en direct ce soir depuis la maison de la radio pour nous parler du palmarès du 75e Festival de Cannes. Ce soir, Stéphanie Duncan vous parlera à 21h de l'assassinat de Marat par Charlotte Corday.